Fréquence protestante, le Midi Magazine, Laurence Arven.
Bonjour à tous, puisque j'ai pour une fois trois invités, ce qui est relativement rare, et trois poètes. L'un de vous étant à la fois poète et éditeur de poètes, puisque c'est comme ça que vous vous présentez. Alors je vais vous présenter tous les trois successivement. Salah Al-Hamdani, vous êtes d'origine irakienne, il y a très longtemps que vous êtes en France. Pour un recueil, mais vous me parlerez certainement d'autres textes, « Rebâtir les jours », donc aux éditions Bruno Doucet. Stéphane Bataillon, « Les terres rares », aux éditions semblable, Bruno Doucet, et Bruno Doucet vous-même, s'il existe un pays. Alors, j'ai eu envie de vous rassembler, si j'ose dire, même si vous êtes d'origine différente, d'âge différent, et si vos textes sont aussi, heureusement, pour la variété de la poésie, très dissemblables, et pourtant, je pense qu'il y a... C'est le titre que j'ai donné, le thème de cette émission. C'est la poésie qui est un espace de liberté, enfin, comme une liberté retrouvée, soit une liberté intime, soit une liberté donc profonde, et soit une liberté un espace de liberté au sens plus militant, plus en lien avec autrui.
Revendiqué.
Et plus revendiqué, sans doute, oui, comme une liberté nécessaire. Voilà. Alors, je vais commencer par Salah Al-Hamdani. Donc, vous êtes né à Bagdad.
Tout à fait, oui.
Vous êtes donc irakien. Vous avez, si j'ai vu et bien retenu ce qui vous concerne, vous avez commencé à écrire dans des circonstances. Enfin, peut-être avez-vous écrit avant, mais vous avez commencé à écrire de la poésie dans les années 70, quand vous aviez 20 ans et que vous étiez dans les prisons de Saddam Hussein.
Absolument, oui.
Donc, je pense que la poésie et le lien avec la liberté, pour
oui,
vous, est quelque chose d'important.
C'est fondamental, bien entendu.
Et pourquoi alors? Pourquoi la poésie n'est pas, après tout, un autre mode d'expression?
Parce que je ne savais pas faire autre chose. Je suis allé à l'armée, pas par l'amour de l'armée ou faire des guerres. C'était juste pour nourrir une famille.
Oui.
Aider ma famille, qui était une famille modeste. S'engager dans l'armée irakienne, c'était pas du tout un amour de l'armée ou de faire des guerres. Hein. C'était juste les pauvres gens en général, c'est un peu partout d'ailleurs, et ils choisissent aller s'engager dans l'armée, n'importe quelle armée d'ailleurs,
oui.
C'est pour vivre. Et c'était mon cas. Et donc, je ne connaissais pas la poésie à l'époque.
Et vous avez commencé comme ça?
J'ai commencé à écrire parce que ça arrivait tout le soir, il y avait une personne qui était pareil avec moi au cachot, parce qu'il nous torturait dans la journée, il nous nourrissait mal, etc. Et tout le soir, il y avait une personne dans l'obscurité, chuchotée, il disait des textes. Et moi, naïvement, comme je ne savais pas, je connaissais pas la poésie à l'époque, j'ai pensé qu'il récitait une sourate ou quelque chose qui a une relation avec la religion, où il parlait de sa famille ou de sa mère, ou je ne sais rien. Et un jour, j'ai décidé d'aller le voir parce que ça commence... j'ai vibré avec cette voix dans l'obscurité qui chuchotait des mots. Et je suis allé vers lui en le demandant... dis-moi, qu'est-ce que tu racontes tout le soir, de chuchoter comme
oui.
ça? Parce que moi, je trouve que c'est très très beau. C'est quoi? Et il m'a dit, avec un étonnement, mais c'est des poèmes. J'ai dit, poème? Ça veut dire quoi, un poème? Vous voyez, c'est commencé comme ça. Il m'a dit, toute personne, normalement, toute personne qui a des sentiments, il peut écrire un poème. Donc,
pour moi,
c'était formidable.
Lancé.
Je dirais, donc, moi, j'ai beaucoup de sentiments, donc je peux écrire beaucoup de poèmes, en fait, ça a commencé comme ça, vous voyez.
Alors, l'élément aussi, mais je pense que nos auditeurs l'auront compris, puisque vous parlez très, très bien français, vous avez dû choisir l'exil, si j'ose dire. Enfin,
j'ai choisi
la France comme terre d'exil.
J'ai choisi la France à cause d'Albert Camus. À cause, presque, j'ai dit,
mais
grâce à lui,
il y a un texte
grâce à ses écrits.
consacré à Albert Camus dans votre recueil.
Oui, symboliquement, bien entendu, oui. Je ne suis pas un spécialiste de Camus, ni historien, mais c'est une philosophe et un homme qui a bouleversé ma vie, qui m'a donné pratiquement le chemin à suivre, l'itinéraire. Et quand j'étais dans une difficulté et ma tête était mise à prix, parce que je sortais de prison, j'étais pourchassé par les milices des fascistes irakiens de l'époque, où je devais quitter l'Irak, mais je ne savais pas où aller, au fait. Et c'était Camus qui m'a donné pratiquement, me montrait le chemin. Et presque, il me dit, voilà, je disais, s'il y a un homme, comme Camus écrivait des choses magnifiques, me fait vibrer à Bagdad, c'est que son pays est magnifique. Vous voyez, et je me suis pas trompé. C'est ça qui est extraordinaire. Ça fait 40 ans. Je vous adore. Heureusement, Camus m'a montré ce chemin. Et je suis venu en France grâce à Camus, bien entendu.
Alors, il y a une phrase dans votre livre qui, évidemment, peut remplir d'une certaine fierté les Français. Moi, je trouve que c'est un peu excessif, mais je la lis. Si Bagdad m'a fait naître, la France m'a fait homme.
C'est tout dit.
Alors, dans les thèmes, puisque bien sûr nous n'allons pas pouvoir aborder toute la richesse du recueil, mais dans Rebâtir les jours, il y a beaucoup dans une douleur contenue, mais la souffrance de l'exil, enfin du vide, de l'absence d'un pays, c'est très présent.
Oui, tout à fait. En fait, quand on est exilé, j'ai l'impression qu'on ne peut pas s'échapper dans un monde où les autres nous ont poussé, en tout cas, m'ont mis dans un endroit où je dois me libérer. C'est pour ça que je me compare souvent à Sisyphe. Le mythe de Sisyphe,
c'est lui qui doit recommencer.
Et comme Camus disait qu'il faut imaginer Sisyphe heureux, je suis un homme heureux, à partir de là, bien entendu. Et du coup, cette condamnation d'être dans l'exil, je ne suis pas un homme cafardeux. L'exil, ça me donne beaucoup plus de moyens d'écrire, de revendiquer. Et c'est vrai, les trois livres qui sont publiés chez Bruno Doucet montrent ça. Les balayères du désert, Bagdad, Jérusalem, à la lisière de l'incendie, que j'ai fait avec un Israélien, trilingue, hébreu, arabe, français. Et le dernier, Rebâtir le jour. Tout à fait, tout en français.
Je ne l'ai pas dit, c'est vrai que ce livre-ci est écrit directement en français.
Et qu'avec Bruno, on a décidé que ce sera tout en français, avec mon éditeur. Bien entendu, je suis tout à fait heureux que ce livre a vu le jour avec Bruno Doucet. Vous voyez, donc, et entre parenthèses, je ne suis pas seulement irakien aujourd'hui, je suis également français.
Bien sûr.
Parce qu'on dit chez nous, celui qui côtoie un groupe ou une population pendant 40 jours, il devient comme eux.
Voilà, là, c'est plus que 40 jours.
Je suis plus
jours,
que vous, quoi, maintenant. Voilà, j'adore ce pays. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est formidable. Les dictons à Bagdad, qui aujourd'hui, quand je le lis, ils s'impliquent complètement, directement, physiquement, dans la chair, avec moi, quoi.
Est-ce que vous pouvez nous lire quelques lignes d'un de vos textes sur l'exil ou sur l'évocation de votre pays?
Disons que...
Moi, je vais prendre quelques lignes, mais je vous laisse ensuite
Je vais peut-être lire le poème pour Albert Camus.
Ah, alors allez-y. Oui.
Juste un extrait. Hein.
Oui, bien sûr.
Je t'écris de mon matin abasourdi. J'ai juste la noyade à mes sentiments, en attendant la tempête de mon petit rêve de rien. Envoûté par cette lumière, alors que te contemple le ciel qui dérive en tornade. Je veux te dire que je passe mon temps à jouer avec une corde, en sautant les instants poussiéreux, et que je ne regrette pas le souvenir posé maladroitement comme des pierres en moi. Avec l'oubli en floraison, comme les regards d'un enfant sans bouche, je me tiens tel un vent, je découpe la solitude, l'héritage de la mémoire de cet automne dans l'écriture. Alors la cruauté du fourbe s'abat sur nous, comme une ultime vengeance. Tout vient de loin, les voix et les rêves brodés de retour. Cette toile qui drague la fenêtre, et même la crainte d'être bombardée comme la mer. Rester dans la guerre. Je t'écris de ma peine, d'une France piratée, dans cette bibliothèque mutilée. Et pourtant, je vais mourir ici, malgré l'imperfection de l'aube, malgré les livres et leurs auteurs, désormais dans des cartons.
Alors, dans les différents thèmes, il y a celui-là, moi j'ai été frappée par un certain aspect de nostalgie. Par exemple, je ne vais prendre que quelques vers du texte qui s'appelle « Soulèvement en furie, une pensée pour mes frères arabes et kurdes en révolte ». Face à la citadelle de vos corps affamés, la nostalgie de Bagdad escalade le cœur. Et aucun sens n'émerge du passé à cette heure tardive sur ce pont triste qui enjambe Paris. Et puis, autre thème qui m'a frappé, qui me paraît normal, c'est celui d'une sorte d'exhortation à la révolte, tout au moins au combat. Et alors je vais essayer de retrouver, puisque je l'ai noté aussi, cette page. Alors, la voici. J'exhorte les braves, enracine la colère lancée contre vous, assassins. Et maladroitement, j'ancre l'écriture, la pierre et les larmes. Je dessine l'Euphrate endormi au pied de la palmeraie en révolte pour graver sur des tablettes cette marche en furie hors du temps. Peuple de lointains pays et d'une proche misère, avant que ne s'achève le jour, prenez corps, comme la mémoire d'un assaillant de la Bastille. Et malgré l'usure de votre malheur, ne brisez pas l'écorce de l'espoir. Alors je pense que nos auditeurs, les auditeurs de Fréquence Protestante, auront senti, perçu à quel point c'est une parole qui est très forte, une parole qui n'a pas de pathos, mais qui est vigoureuse, lyrique d'une certaine manière, je dirais. Alors on reviendra peut-être sur certains aspects, mais donc vous êtes ici trois poètes, et c'est vrai que vos univers, les univers que vous créez dans vos textes sont très différents l'un de l'autre. Alors Stéphane Bataillon, vous êtes beaucoup plus jeune, vous êtes français j'imagine, oui. Et vous venez de publier chez Bruno Ducet votre deuxième recueil, le premier étant un recueil de deuil, d'absence, voilà, de deuil plus précisément, et cette fois avec un titre qui est un peu mystérieux, donc je vais vous demander le sens que vous donnez, « Les terres rares », donc paru chez Bruno Ducet, c'est un recueil de l'intime, de la renaissance, du désir de vivre et de la joie de vivre qui revient avec une union et avec beaucoup, parce que c'est très présent, l'apparition d'un enfant, la naissance d'un enfant. Alors pourquoi « Les terres rares » C'est un beau titre, mais...
Les terres rares pour deux choses. Le deuil, avant tout, c'est la perte d'un désir.
Oui.
C'est l'absence et c'est la perte d'un désir qu'on s'était plus ou moins constitué, qui allait presque de soi, de vivre avec des projets, avec des choses à construire. Et puis soudain, avec la perte, avec l'absence, il y a cette plus que tout, plus qu'une sorte d'envie de... ou d'en finir, ou une envie de s'enfermer, ou une envie de profiter à fond de la vie, il y a cette perte du désir fondamental qui, jusqu'ici, on le croyait, nous faisait avancer. Et ce désir met très très longtemps à revenir, donc ces terres sont... Il faut retrouver un lieu, retrouver une terre où... Plus que retrouver la joie, retrouver
ce mouvement.
Où on
puisse s'enraciner peut-être,
voilà,
retrouver...
Et d'un autre côté, les terres rares, c'est aussi le nom de tous ces minerais,
oui,
au plus profond des roches, qui aujourd'hui équipent tous nos appareils portables, qui sont très difficiles à extraire de la roche, et donc quelque chose d'assez précieux, pour moi est l'arrivée de cet enfant, à la fois espéré, à la fois inespéré, à la fois... La venue de cet enfant est vraiment une manière de surmonter,
oui,
cette période-là,
oui,
qui est le deuil, l'absence, mais aussi la période d'avant qui était la maladie, voilà, en transmettant, donnant la vie, et inespérée parce que à plein de moments, durant ces périodes de maladie, et puis après la mort, on s'est dit que c'était... ça ne pourrait pas se produire.
Alors, dans votre livre, il y a des choses très, très fraîches et très, très légères qui sont des souvenirs d'enfance. Et là, je pense que c'est votre enfance à vous. Je vais prendre un petit passage. Nature est très présente avec les arbres. Et puis, je voudrais qu'on lise un peu, vous peut-être, des textes autour de cette apparition de l'enfant, de cette naissance et de tout ce qu'on recrée ou crée autour de lui. Alors, juste pour des aspects de souvenirs d'enfance, et puis il y a les arbres, mais enfin c'est surtout le... Voilà, je voudrais retrouver ce petit passage... C'est important, et en même temps c'est la création, l'écriture poétique. C'est important le lieu où se trace un poème, face à une fenêtre, face aux pierres de taille, face à une map-monde. Oui, face à une map-monde. C'est important le lieu où se trace un poème, ça délimite. Et puis, je suis désolée parce que j'aurais voulu retrouver peut-être... un texte plus sur la nature et je n'ai pas...
Peut-être
voilà,
celui-là.
Allez-y.
Été 1985, plage de Boyerville.
Ah oui, voilà, c'est celui-là que je cherchais, c'est très bien.
L'odeur des épines démarque la pinède. On court, encore mouillé, aux côtés de son frère. Au contact du sable qui brûle chaque pas. On ne sait pas si l'ombre... Que font les arbres lorsqu'ils s'ennuient? Les arbres font des paris sur qui s'endormira, à la gloire du chêne et au mépris des roses. Alors peut-être deux poèmes. Qui sommes-nous devenus entre les points d'enfance? Quelles sont les intentions de ceux qui ont grandi? Passer sans faire de bruit et se recroqueviller? Emprunter d'autres voies entre les tourbillons? Le théorème a-t-il servi?
Alors moi, je voudrais qu'on évoque la Renaissance avec l'enfant, voilà. Alors je pense que l'enfant, c'est pas seulement symboliquement, ce qui est une évidence, la vie qui recommence, c'est aussi... lié dans vos textes d'une façon très, très forte et discrète, mais c'est très présent au sentiment de la fragilité de la vie.
Tout à fait.
Donc à une peur.
Cette occasion de s'abandonner.
Oui.
Alors qu'on avait presque juré de ne plus jamais s'abandonner. Donc oui. S'abandonner à ce qu'on ne connaît pas, à une autre vie, à un autre regard. Et ça, c'est...
Je pense que quelles que soient
les choses qui se passent lors d'une période de deuil, forcément on est contraint de se durcir, même si ce durcissement doit nous amener à réinterroger notre agilité. Mais ça ne résout pas tout. Et à un moment, il y a le besoin de retrouver sa place dans le monde, et plus que ça, retrouver sa place parmi les autres et avec les autres.
Et avec les autres, oui. Alors, je voudrais lire ce passage, enfin, ce texte. Dernière veillée, dernier séjour avant terme. Un léger crépitement me fait me rendre compte. Pour la première fois, je n'ai pas contemplé la caresse des flammes. Ne jamais avoir l'air complètement heureux. Ne pas froisser les dieux une seconde fois, mais en sourire quand même. Il y a celui-là qui est très beau. Et puis, alors, il y a... c'est juste la naissance de l'enfant, c'est très bref. Et toi, enfin, j'imagine que c'est l'enfant. Chacun, évidemment, peut construire des images et des sensations. Et toi qui apparaît, qui embrase le monde d'un seul doigt allumette. C'est très beau et c'est très fort en même temps comme renouveau.
Et c'est très vécu. Et c'est on parlait oui. de liberté de la poésie tout à l'heure. Et je pense que c'est une liberté par rapport au monde, par rapport aux mots, à l'usage du langage et la possibilité, toujours un peu, la position toujours un peu délicate entre l'utilisation des choses vécues pour créer le poème et la sublimation de ces choses vécues grâce au poème. Et par exemple, ça, toute cette partie-là sur la naissance de mon fils, c'est vraiment des poèmes écrits presque dans la journée ou sur l'instant.
Oui.
Et le doigt allumette, c'était vraiment ça, ce petit doigt qui apparaît comme ça.
Et puis ceci encore, tu as pulvérisé les lourdes portes de fer, sans même une parole. Les gardes n'ont pas requis le moindre mot de passe. Seul un regard naissant t'attend de bleu mais pleure. Et puis il y a un autre thème aussi que je voudrais évoquer juste quelques minutes, c'est l'accueil fait à l'enfant avec l'idée qu'il faut à la fois le protéger, mais c'est dit plus subtilement dans la poésie que ce que je vais dire. C'est un être qu'il faut à la fois protéger pour sa fragilité, pour sa beauté, sa valeur, et en même temps il faut, et visiblement c'est quelque chose que vous répétez plusieurs fois, constamment imaginer la liberté future de l'enfant.
Oui, ce fameux proverbe des racines et des ailes.
Oui.
Jeunes parents, c'est un des principes d'éducation qu'avec ma compagne on essaye de se fixer, ce qui nécessite de vraiment aussi abandonner et faire confiance. Presque complètement, même si effectivement on protège et tout, mais vraiment avoir un sentiment de conscience dès le départ pour cette vie qui arrive, ce qui n'est pas facile.
Oui, il y a par exemple ceci, tu ne liras jamais les centaines, enfin je crois que c'est à lui que cela s'adresse, tu ne liras jamais les centaines de livres collectionnés pour toi. Pour cette image de moi projetée un peu au loin, dans le rêve d'un enfant au regard identique. Tu ne liras jamais les 1000 aventures découvertes au détour et ces milliers de pages scrutées par la vigie. Je me suis séparée de ces traces évidentes. Je préfère effacer la carte de mes joies pour te laisser l'usage des frissons du chemin. Et donc, inventer.
Voilà, inventer sa vie.
Nous livrerons les ailes au seuil de ta porte, qu'il te soit libre. Alors, je rappelle le titre de votre livre, puis on va peut-être faire une pause musicale avec... alors, c'est Narciso Yepes à la guitare et c'est une pièce espagnole de Joaquim Rodrigo.
Fréquence protestante, le Midi Magazine, Laurence Arvène.
Bruno Doucet, je vais prendre maintenant votre livre. Donc je rappelle que nous sommes dans un espace de poésie, sur Fréquence protestante, avec trois poètes. On a entendu un peu Salah al-Hamdani, Stéphane Bataillon à l'instant. Et puis donc Bruno Doucet, vous dites, ce qui est juste d'ailleurs, poète et éditeur de poètes, puisque vous avez créé maison il y a 3 ans. Alors on parlera de la maison d'édition après. Vous venez de publier, je crois que c'est le 50e d'ailleurs de la maison, S'il existe un pays. Et s'il existe un pays, je crois que il y a à la fois des choses, des textes très courts qui évoquent la neige, qui évoquent des aspects de nature. Et puis il y a, ça m'a non pas surprise, mais très nettement, il y a des textes beaucoup plus d'hommages à des poètes et à des gens qui sont souvent des exilés et des combattants par les textes. Mmh. Donc il y a aussi tout un aspect de poésie militante dans ce recueil.
Ou de dialogue.
Ou de dialogue, voilà. Alors voilà. Il y a Jean Métellus que je connais depuis, 25 ans, donc haïtien, en exil en France depuis très très longtemps. J'ai trouvé que c'était très bien d'avoir de lui consacrer un texte. Il y a...
Aimé Césaire,
oui, il y a, en dehors des écrivains.
Il y a un long texte consacré à Federico Garcia
Lorca. Alors, Garcia Lorca, une petite incise sur Pablo Neruda, si je me souviens bien, et puis sur l'Indien des peuples premiers, voilà. Oui. Donc, alors je voudrais que vous me disiez, pourquoi cet aspect, disons, militant, ou, voilà, dans ce texte, dans ce recueil.
Alors, je dois vous dire d'abord que ces textes ont été écrits au fil de mes pérégrinations, au cours
des
quatre années qui viennent de s'écouler. Quatre années entièrement consacrées à la création d'une maison d'édition, à son lancement. Et donc, une maison d'édition, on en reparlera, mais c'est comme un petit bateau qui sillonne les mers à la rencontre des poètes. C'est ce que je fais au propre et au figuré. Et donc, au fil de mes voyages, j'ai écrit ces textes. Il m'est arrivé de rester parfois plusieurs semaines sur une terre dont je n'ai ramené, par exemple, qu'un très court poème. C'est La Réunion, avec un tout petit poème qui s'intitule Maloya. C'est tout ce que j'ai écrit au cours de mes 15 jours à La Réunion. Et puis parfois, des séjours brefs ont donné naissance à des textes très importants. Donc c'est d'abord un carnet de voyage dans l'espace, mais aussi dans le temps, puisque je vais effectivement à la rencontre de ces voix du passé, comme celle du grand poète grec Yanis Ritsos, ou de Federico Garcia Lorca, qui sont des poètes qui m'ont, un peu comme le disait Salah Al-Hamdani à propos de Camus, qui m'ont fait homme, c'est-à-dire que je suis ce que je suis en partie grâce aux lectures que j'ai pu faire, et qui nourrissent non pas seulement un imaginaire, mais aussi une conscience poétique et politique.
Alors, petit passage, avant de revenir, je vous laisserai choisir vous-même ce que vous souhaitez lire dans ce domaine. Moi, j'ai beaucoup aimé ces tout petits... non, c'est pas si petit que ça, mais c'est parce que ce sont des petits morceaux. L'évocation de la neige.
Oui.
Elle se pose sur les arbres, dans l'herbe, sur le toit des maisons, effleure les ailes de l'oiseau. La fourrure des animaux la boit comme une lampe. Neige recouvre neige. Elle n'est d'aucun pays, n'appartient à aucun être. La mémoire qu'elle invente fond dans l'instant de sa présence.
Neige n'a d'ombre qu'elle-même. Ce qui l'habille porte sa nue. Depuis la veille, elle sillonne les bois, rigole dans les fossés, dévale les collines, papillonne à s'y méprendre. Sa houppelande d'étoiles se met au vent du monde. Neige suit le mufle des coursiers, on la repère à son haleine.
Oui, après, si, enfin, le texte continue encore.
Et puis ce petit fragment qui fait presque écho au très beau poème que Stéphane Bataillon nous a lu. Neige porte en elle la voie lactée, ses flocons sont des yeux d'enfant.
Oui.
Alors c'est vrai que c'est un poème qui vient tout droit de mon enfance. Enfin, je l'ai écrit peu de temps avant la parution de ce livre. C'est l'un des derniers textes écrits, mais il vient de loin. Il vient de cette enfance dans le Haut-Jura où la neige occupait nos vies presque 6 mois de l'année, traînant avec elle son univers de magie enfantine et de sons étouffés, de choses très très simples.
Alors, l'autre visage donc, qu'on a évoqué avant, c'est celui de ces poésies, de ces poèmes qui évoquent peut-être Garcia Lorca, mais si vous souhaitez quelqu'un d'autre, voilà. Mais au moins, on donne un peu une idée à nos auditeurs de la variété de ce qui est offert avec vos trois recueils.
Alors, je peux peut-être lire un extrait de cet oratorio pour Federico Garcia Lorca, peut-être la fin de ce texte. Pour les crimes de Grenade et les charniers de la douleur. Pour le poète chevrier mort en chantant comme l'oiseau, simple gardien de troupeau au vent du peuple et de la terre, toi, Miguel Hernández, dont les derniers poèmes furent écrits sur les murs du bagne d'Alicante, au grand soleil fou de Miguel. Pour l'Espagne qui n'est l'Espagne que dans l'espoir déchiqueté. Pour Antonio Machado, mort en exil à Collioure, homme fier dont le romancero offre à l'Extrémadour le plein chant de l'amour et des chansons de France, à Capella de Soria, banni. Pour les victimes de Franco, la cohorte des réfugiés. Pour Don Pablo à l'encre verte, en son chagrin de l'île noire. Oui, le voilà, Pablo Neruda. Quand les hyènes de la haine hurlent encore dans la nuit, que le peuple désespéré trouve dans son regard ses 20 raisons de vivre et sa raison d'aimer. Ô poésie, terre trahie. Pour les poètes que l'on tue et les royaumes que dévastent les franquistes reconvertis sur la planète de l'argent, je nommerai le sang rouge Federico et je me tiens debout dans la lumière et dans l'oubli.
Alors, je voudrais vous demander, à Bruno Doucet d'abord, puisque c'est vous qui avez créé cette maison d'édition il y a 3 ans, mais à vous autres poètes qui l'avaient rencontré, qui avaient donné des textes, pourquoi la poésie et pourquoi créer une maison d'édition ? Ça m'a paru, lorsqu'on me l'a dit, puisque c'est une de mes invitées qui me l'a indiqué, une vraie gageure aujourd'hui. Et c'est une maison d'édition apparemment qui marche, puisque vous en êtes à 50 publications.
Oui, en 3 ans et demi,
c'est pas mal. C'est beaucoup.
En ne publiant que des poètes et des poètes du monde entier.
Voilà, alors comment peut-on avoir envie d'abord de ça? Quel projet, quelle ligne éditoriale et comment vous choisissez les poètes que vous éditez? Comment vous, Stéphane Bataillon et Salah Alhamdani, comment vous êtes... Pourquoi vous êtes retrouvés à l'aise apparemment, dans l'univers créé de cette maison d'édition. Je ne sais pas qui commence.
En ce qui me concerne, écoutez, il se trouvait que j'étais bibliothécaire pendant 20 ans au CHU de Bicêtre.
Oui.
Je suis un homme de théâtre.
Vous étiez homme de théâtre en Irak et vous l'êtes.
Non, en France.
Non, en France.
Moi, je suis tout construit en France. Je parle de la France.
Oui.
Et j'étais au fur et à mesure dans le temps, en France, on ferme des librairies, on ferme des éditeurs, il y a des revues qui disparaissent et on ne dit rien. Je suis scandalisé en tant qu'une personne qui vient de l'extérieur de cette culture française et de voir de quelle manière on traite les patrimoines de la France. Cette culture. Bruno Doucet, c'est ce qui est extraordinaire pour moi, au-delà de, on va pas faire une théorie, mais un homme qui s'occupait de ses guerres.
Oui, ça, je ne l'ai pas dit, c'est important.
L'acheminement de Bruno Doucet, comme il disait là tout à l'heure, c'est Lorca, c'est Richos, c'est Pablo Neruda qui l'ont fait homme, ben, je trouve qu'il trouve sincèrement, c'est sa place. C'est l'homme engagé aujourd'hui, au XXe siècle, en France, créer une maison d'édition, et de l'amener jusqu'au bout. Et de chercher en plus, parce que je crois que Bruno, il va le développer tout à l'heure. Je suis extrêmement, c'est mon honneur, ça me donne un honneur énorme de voir qu'il y a quelqu'un qui laisse et qu'il veut montrer qu'un patrimoine ne disparaisse pas, et de oser aujourd'hui de le revendiquer, malgré qu'il éventuellement il ne sera pas payé, malgré qu'il n'a pas de salaire. Oui, il faut que les gens comprennent.
Faire un
livre de poésie, c'est quelque chose qui nous empêche quand même de vivre tranquillement, parce qu'il faut payer les autres, payer la production, payer le diffuseur, payer... Il y a plein de choses de fracas de la vie, et on n'est pas là simplement parler de poésie comme si c'est facile à écrire. Après, maintenant, il faut amener vers les publics. Et Bruno Doucet, à mon avis, c'est l'homme aujourd'hui formidable. Oui, mais c'est aussi les Sisyphes, pareil. Bruno Doucet, c'est Rocher qui le monte, qui le redescend. Et parfois, peut-être, on attend longtemps pour qu'elle redescende. Parfois, les comme Sisyphe, il met le rocher là-haut, sauf qu'elle ne le sent pas. Alors, on va voir avec lui, est-ce que le rocher va redescendre, ou il faut le remonter, ou est-ce qu'au milieu du chemin? Vous voyez?
Alors, Sisyphe est décisif.
Voilà.
Et c'est vrai que quand on prend la décision de créer une maison d'édition, ce n'est pas pour rien. parce que c'est vrai qu'on se donne un mal fou et oui. que c'est une véritable combustion, vraiment. Mais en même temps, nous sommes convaincus tous les trois, pour des raisons qui sont liées à nos vies respectives, que la poésie, c'est exactement ce qui empêche les étoiles de tomber. C'est une main qui les retient. Ou c'est une main qui crée des étoiles dans l'obscurité d'une prison. La poésie, ce n'est pas un miroir dans lequel on se regarde, comme dans certaines tendances de la littérature française, je pense à l'autofiction. C'est véritablement une fenêtre ouverte sur le monde. Et la poésie, si elle ne sert à rien, elle est totalement indispensable. Et nous sommes convaincus les uns et les autres que nous ne pouvons pas vivre sans poésie. Une société privée de poètes, c'est une société qui est condamnée.
Et Dieu sait pourtant qu'on est dans une société qui n'a pas cette démarche-là. Vous êtes, d'une certaine manière, à contre-courant, et puisque ça marche, ça veut dire que vous n'êtes pas à contre-courant. Il y a des gens qui ont éprouvé ce besoin.
Non, il y a un grand besoin de poésie. Je n'ai jamais rencontré quiconque qui n'ait pas au fond de lui ce besoin de réenchanter la vie, ce besoin du poétique. La plupart de nos contemporains ne s'en rendent même pas compte. La poésie est présente, par exemple, à tous les moments importants de la vie. Elle est dans le babil du nouveau-né. La poésie préexiste au langage.
Oui.
Elle est dans la prière de l'agonisant. Mmh. Elle est dans les mots transportés de l'amoureux. Elle est dans les silences lorsque nous ne trouvons pas les mots pour dire ce qui déborde en nous, ce qui bouillonne en nous. Donc finalement, le poète n'a à sa disposition que les mots de tous les jours. Mais il en fait une danse, il en fait quelque chose.
Il en fait quelque chose, ce que Stéphane Bataillon, tout à l'heure, vous appeliez sublimé.
Oui,
j'ai eu l'impression que vous vouliez ajouter quelque chose.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, plus le temps passe, et personnellement, plus j'ai l'occasion de voir d'autres pistes, d'autres formes d'engagement. Hein. On parle beaucoup de militance, on n'a pas du tout les mêmes opinions ou les mêmes.
Oui.
Et c'est aussi très appréciable, c'est que Bruno a réussi à créer une maison d'édition ouverte. Mais l'importance de la poésie se renforce de jour en jour. Et l'essentiel, je pense pour les écrivains, enfin les poètes, comme pour le public, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer, qui est bien au-delà du texte, du mot, de se faire éditer un texte, qui est vraiment l'occasion de nouer de nouvelles relations. Et on parle d'un monde plus fraternel. Alors, cette utopie, cet idéal peut prendre plein de formes. Et je crois que la poésie est vraiment un moyen assez immédiat, assez direct, et qui convient paradoxalement assez bien à notre civilisation, à notre société, où tout va très très vite, où on n'a presque plus le temps, pour préserver ce petit germe qui peut créer le lien entre les hommes.
Et j'aurais envie de vous demander aussi, alors est-ce que vous trois, pas forcément ensemble, mais à d'autres moments, est-ce que vous lisez, enfin vous donnez des textes en public, il y a des rencontres que vous organisez, il y a...
Alors je vais répondre peut-être en vous disant que oui, bien sûr, je considère que être éditeur de poésie, faire des livres que l'on veut aussi beaux que possible, ce n'est jamais que donner la demi-vie de la littérature à la poésie. Pourquoi ? Parce que la poésie est un art vivant qui a besoin de la parole,
de la
rencontre et du partage. Elle ne prend son sens que dans le partage. Le texte n'existe que s'il est lu. Et cette histoire de solitude à solitude, la solitude de celui qui écrit, parfois la solitude dans laquelle se trouve celui qui lit, eh bien, c'est aussi pour nous la nécessité permanente de construire des passerelles, des ponts qui vont permettre au poète de rencontrer son lectorat. Voilà, c'est comme cela que nous le concevons. Et c'est ainsi que nous le vivons. J'allais dire presque à la manière de la troupe de Molière. Nous sillonnons la France dans tous les sens et même au-delà pour faire entendre la voix des poètes. C'est une chose qui nous semble absolument fondamentale.
Et ce qui est peut-être...
Stéphane Bataillon,
une particularité de cette maison, c'est qu'on se voit beaucoup tous.
Alors j'ai eu l'impression tout à l'heure, en effet, moi on m'a proposé vos trois noms, j'avais les livres, donc j'ai trouvé très intéressant, mais j'ai l'impression que vous connaissiez.
Oui, oui, il ne faut jamais s'inquiéter, on adore les autres poètes, j'ai pas le dossier, c'est
en
des
tout
amis.
Cas que vous vous connaissiez bien.
Oui, oui, absolument, oui. Oui.
On fait des spectacles ensemble, on fait des lectures, et vraiment, et on découvre aussi hein, des nouveaux poètes, des nouvelles personnes. Et c'est très agréable, on parle souvent de troupes de théâtre, très libres, sans trop de contraintes, et c'est une grande force de cette maison.
Et alors, vous allez dans quels endroits ? Moi, j'ai vu une fois, parce que je ne sais plus, je crois que je n'étais pas à Paris, à la Maison de la Poésie, bon, assez récemment, voilà, pour les trois ans de création, vers juin ou mai, enfin, quelque chose comme ça. Vous allez dans d'autres lieux, les uns et les autres ?
En fait, il y a à la fois l'éditeur, donc le Bonnet Dossier, qui organise en tant qu'éditeur.
Oui.
Pour nous, dans des festivals, d'être invité dans dans un endroit où il y a de lecture, de soirées poétiques et d'autres, voilà. Et qui a également notre propre activité, nous, poètes, parce que nous sommes engagés aussi de descendre dans la rue. On n'y reste pas derrière en disant qu'on donne les manuscrits au l'éditeur, il va le publier, et nous, on fait rien. Ça veut dire qu'en fait, quelque part, c'est là où peut-être on se rejoint tous ensemble, la poésie, elle doit descendre dans la rue. À ma manière, à moi, en tout cas. Je considère. Et donc, en fait, on est du sud au nord, du nord à l'est. Ça veut dire qu'on est tout le temps, chaque fois, il y a un festival, chaque fois qu'il y a une il y a, là, en ce moment, en tout cas, j'ai remarqué depuis un an ou deux, il y a toujours un ou deux poètes de Bonnet Dossier, ils sont présents quelque part.
Ils sont présents.
Mm-hmm. Oui, absolument.
Alors, on a parlé tout à l'heure, une seconde, c'est vous, Salah Al-Hamdani, qui l'avait dit. Vous avez publié, parce que je pense qu'on est dans l'évocation de la liberté et puis d'une certaine importance donnée à la parole. Vous avez publié, alors la symbolique est belle, on ne va pas en parler plus, mais un livre avec un écrivain, un poète israélien. Alors là, je l'ai vu, c'est trilingue, donc il y a l'arabe.
Il y a l'arabe, l'hébreu et le français.
Et parce que vous étiez né la même année.
Né la même année à Bagdad, en 1951. Vous voyez, c'est encore grâce à cette édition de Bonnet Dossier que ces livres aujourd'hui existent en trilingue. Et j'ai l'impression je ne sais pas si c'est très très rare, je pense que c'est même, je n'ai pas vu, moi en tout cas jusqu'à aujourd'hui en France, depuis 40 ans, un livre qui contenait trois langues.
Oui.
Et ça, c'est pour moi formidable. Le symbole est immense parce que amener un poète irakien avec un poète israélien aujourd'hui, avec tous les mots, tout ce qui nous entoure de guerres et des assassinats, et voilà. Et à mon avis, l'acte est fait sur le sens symboliquement et même physiquement. Les livres existent. Ils existent en Israël,
Oui. En tout cas, c'est véritablement un espace de liberté.
Oui, tout à fait.
Parce que cet espace, vous l'avez créé par la parole, par la rencontre des cultures et des langues. Et ce qui semble impossible, sur cette planète, dans cette géographie morcelée par les frontières et les conflits, est possible dans l'espace du livre. Donc je trouve que c'est effectivement ce livre qui est né par une poignée de main, celle qu'ont échangé deux hommes, est vraiment porteur d'un message d'espoir.
Oui, en plus on a impliqué d'autres personnes pour traduire ces livres, parce que moi j'ai écrit les textes en arabe, traduit par Isabelle Lani en collaboration avec moi. Il y a René Sommet qui a écrit ce poème en hébreu, traduit par Michel Carr. Vous voyez, c'est toute une équipe,
c'est
un travail collectif.
Alors, je voulais revenir sur une chose. On a beaucoup parlé de liberté. Bon, parce que c'est vrai que la poésie, on est un support. Est-ce que chacun d'entre vous, je pense qu'il nous reste peu de minutes, mais est-ce que chacun d'entre vous pourrait lire un texte? Alors, je vais rappeler chacun des livres tout de même, ou si vous en choisissez un autre. Alors, ça là. Al-Hamdani, si vous voulez commencer, je ne sais pas, soit avec le Rebâtir les jours, soit un autre, comme vous voulez.
Un poème de Les balayeurs du désert, j'aime bien, le début, miroir inversé. Ma nuit est de sable sur une table de verre, j'ai sur moi l'odeur de l'exil. Ma demeure d'argile est bien là, sans jardin, sans forêt, ni palmier. Mon ciel est un fleuve inversé, et mes mots naviguent au-dessus d'un pays lointain, où les hommes cherchent la direction du jour. Je courais pendant toutes ces nuits, jusqu'à museler le sentiment et presser le nuage. Cela apaisa mon esprit. Ma vie béante, livrée aux vagues sans retour, encore, et ta vie à toi. De quoi rêvait-elle?
Stéphane Bataillon, alors peut-être.
Je t'ai pris dans mes bras, encore traumatisé par le choc de l'air. Tes regards étaient cris sans distinction des choses. Et je t'ai murmuré d'ignorer l'inquiétude, car tout se passerait avec une voix de plus. Et tu t'es mis à réfléchir.
C'est là, le dernier vers est très... Enfin, et drôle et émouvant, évidemment. Bruno Doucet.
Alors, un très court poème tiré de ce
recueil. On a encore quelques minutes, on a 3-4 minutes.
D'accord,
encore.
Mais quand même, un court poème.
Oui.
Taureau de la mélancolie, je ne crains pas de mourir à l'aube. L'or que je porte en moi ouvre les portes du soleil. Et puis, si vous le permettez... quelques très courts poèmes qui ne sont pas de moi, mais qui sont
oui.
qui ont été écrits par des jeunes gens pendant la guerre de 14.
Voilà, ça je suis voilà, je suis désolée parce que j'allais non pas l'oublier, mais voilà, vous nous avez dit juste avant qu'on entre dans le studio que vous publiez donc le 51e.
Oui, le 51e livre de la maison d'édition.
En pleine figure des haïkus.
Voilà.
Alors je vous laisse la parole parce que c'est très étonnant.
Une anthologie des haïkus de la guerre de 14. Les haïkus, ce sont ces petits poèmes japonais de 3 vers. Tout le monde pense, communément nous pensons, ici en France, que le haïku a été découvert après Hiroshima, dans l'émotion qui a suivi la destruction d'Hiroshima en 1945. Or, il y avait au début du XXe siècle des poètes sensibilisés aux traditions japonaises, qui avaient cette sensibilité particulière, qui écrivaient des haïkus et qui sont partis à la guerre, avec pour seul viatique parfois la possibilité d'écrire un court poème sur un morceau de papier, sur un morceau de carton, dans les tranchées, parfois même avant de mourir. Et nous avons collecté l'ensemble de ces poèmes, publiés à l'époque dans des plaquettes, et de nombreux textes inédits. Des poètes aujourd'hui...
Il y avait eu, excusez-moi, des éditions,
oui,
petites éditions de ça.
Oui, il y a eu des éditions, des petites plaquettes,
pas fallu que vous
des revues.
Maintenant
mais nous avons
auprès
quand même
des
collecté
familles.
Beaucoup de choses,
oui.
Auprès parfois des familles. Et je, si vous le permettez, je vais vous lire trois petits textes. Le premier est signé René Maublanc. En pleine figure, la balle mortelle. On a dit au cœur à sa mère. Et puis, ces deux poèmes de Julien Vaucance. Clac, 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 clac. Ton bruit sinistre mitrailleuse. Squelette comptant ses doigts sur ses dents. Et enfin, dans un trou du sol la nuit, en face d'une armée immense, deux hommes. Voilà.
Alors moi, je voudrais reprendre les trois petites choses qui m'ont bien plu dans chacun d'entre de vos recueils. Alors Stéphane Bataillon, là je prends un peu au hasard, des choses toutes simples pour accueillir. Isoler les fenêtres avant le froid d'hiver. Terminer la peinture pour que jouent les rayons qui entrent dans la danse. Que tu puisses habiter cette maison, d'où partir vers ton aventure. Rebâtir les jours, ça là, l'âme d'Annie. Alors, vous avez déjà, on a lu plusieurs choses, mais celui-ci peut-être, l'itinéraire. La terre appartenait à ceux qui avaient navigué dans la foudre, et la nudité des palmiers dans l'air brûlant ressemblait au printemps de l'homme en fuite. De la nuit jusqu'à l'aube, seules les profondeurs du désert égalent ta solitude. Et Bruno Doucet, alors troisième chose, et puis on va reprendre les titres de vos livres. Je pense que c'est... Alors c'est dans un des textes de La rue du Martyr. Donc en fait c'est encore
Garcia
Lorca. Nous sommes du même pain, toi et moi, le bon pain de la vie, celui que l'on partage dans le camp de l'amour et de la liberté. Oh le jour triste à Grenade qui fait pleurer les pierres, Mariana nocturne et lunaire, ma petite Mariana de l'enfance, innocente comme moi et comme moi victime, j'en suis sûre, ils feront tout. Mes amis ne m'abandonneront pas. Les amis n'abandonnent pas. N'est-ce pas qu'ils feront tout ? J'arrête sur cette toute petite note d'espoir. Alors, je rappelle, en vous remerciant beaucoup tous les trois, les titres de vos livres, enfin les trois derniers tout au moins. Alors, Salah Al-Hamdani, Rebâtir les jours, Bruno Doucet, S'il existe un pays, Stéphane Bataillon, Les terres rares, et donc aux éditions Bruno Doucet. Merci beaucoup.
Merci à vous aussi.